Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Et je vous propose une lecture dans le psaume. On va surtout parler de psaume, si vous voulez bien, dans notre méditation cet après-midi. On va ouvrir le psaume 127, quelques versets, et on va se réconforter. La prière que nous avons entendue il y a un instant, c'était « Tu es le Dieu des impossibilités, et tu es venu libérer les captifs ». Alors, bien, c'est ce que l'on va découvrir, dans la mesure où, véritablement, on tourne les yeux vers le Seigneur, alors c'est lui qui nous délivre de toutes nos captivités, et ce qui nous semble impossible, c'est lui qui le réalise. Alors on va lire ça ensemble, alors on va en découvrir quelques-uns comme cela, mais on va commencer par le psaume 127. Écoutez bien, c'est un cantique de Salomon, et il est dit ceci, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Alors voilà un texte qui est formidable. Ouais, formidable, parce qu'il est beau, d'abord, et puis il nous laisse une extraordinaire espérance. Oui, on peut le dire, c'est le Dieu des impossibilités qui rend possible l'impossible et qui véritablement est celui qui nous délivre de toutes nos captivités et j'ajoute, tout ce qui nous amène à être négatif, à ne pas voir Dieu dans sa puissance, dans son amour, dans sa miséricorde pour les hommes. Ça fait partie justement des prisons dans lesquelles souvent nous sommes renfermés. Et c'est vrai, dans cet état-là, nous ne pouvons pas finalement voir grand-chose. Et puis il y a aussi le cas, et nous allons en parler d'ici quelques instants, où nous voulons tout faire à la place de Dieu, et nous nous épuisons, avec si peu de résultats d'ailleurs. Alors c'est pour ça que les choses ont été écrites de cette manière. Salomon. Alors il pouvait véritablement parler savamment de bâtir, parce qu'il a eu un héritage venant de son père David, c'était de construire la maison de l'Éternel. Et ça a été un bâtisseur, Salomon. Il a fait des merveilles, parce que c'était un homme intelligent. C'était un homme dans une grande période de sa vie, une longue période de sa vie, il marchait avec Dieu. Après, c'est certain que c'est beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus douteux, sa vie. Mais toujours est-il qu'on va retenir le meilleur, c'est comme à chaque fois, Même si quelqu'un peut-être part un petit peu à la dérive, si quelquefois nous perdons des amis qui ne sont plus nos amis, moi ce que je voudrais dire, et un message au passage, gardons le meilleur, gardons pas le pire. Parce que vous savez, on peut toujours avoir des surprises. Un moment ou un autre, même ceux qui nous ont fait du mal, quelquefois peuvent venir vers nous, frapper à notre porte et nous demander pardon. Ça vous est jamais arrivé? Moi ça m'est arrivé ça. Un grand étonnement, mais voilà. Et après, la relation repart. Alors, toujours est-il que c'est Salomon, et comme il était un grand bâtisseur, il dit ceci, « Eh bien, si l'Éternel ne bâtit la maison, et vraiment il était dans le plan de Dieu pour bâtir cette maison, et il n'a pas fait que celle-ci, Il s'est construit un somptueux palais que l'on appelle la maison de la forêt du Liban, parce que tout l'intérieur était lambrissé de cèdres, et il y avait des richesses. C'est lui aussi qui a décoré, je crois que c'est la maison de l'Éternel, avec les fameux 50 boucliers d'airain. Non. D'or. Il y en a un autre qui est passé derrière, il s'est dit, pour garder un petit peu la mesure, on va mettre des boucliers d'airain. Ça ressemble à l'or, mais ce n'est pas de l'or du tout. Mais lui, c'était en or. Alors, il nous laisse ce message, et qui peut faire du bien, parce que je crois qu'il y a quelque chose à vraiment découvrir à travers ça. Alors, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison. Vous savez, ça fait écho à une parabole que Jésus nous a laissée. Vous allez m'aider cet après-midi. Vous savez, le petit bonhomme qui arrive sur la plage avec sa pelle, et il dit, je veux construire une maison. Puis, il y en a un autre, il arrive aussi là sur un rocher, il dit, moi, je veux construire mes maisons. Vous savez, le... ça, c'est aussi une affaire de construction. Puis Jésus nous donnera aussi une autre parabole, quand il dira, mais si quelqu'un veut construire une tour, il en calcule la dépense, il se dit, est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Parce que c'est vrai que si on commence quelque chose et qu'on ne le finit pas, c'est quand même dommage. Parce que vous savez, c'est toujours la fin d'une chose qui est la plus belle. Ah, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais c'est vrai. Parce que premièrement, il y a la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout, la réalisation. Et puis, d'avoir vu Dieu, quand Dieu est associé, de dire, mais Seigneur, pour la construction, pour l'édification de ceci, l'édification de notre vie, quelquefois ça ne se passe pas toujours très bien, on a des épreuves, on a des difficultés, des afflictions. Alors, on voit bien la différence, celui qui construit avec le Seigneur et celui qui construit sans le Seigneur. C'est pas pareil. Parce que, quand Dieu est absent, on recourt souvent à des expédients, à du bricolage. Ça tient, mais bon, on n'est pas forcément pleinement satisfait parce que quelquefois, c'est un peu branque-ballant. Mais quand on construit avec le Seigneur, eh bien, vous savez, c'est ce que nous dit aussi un autre passage dans la Bible. C'est là qu'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et quand on construit avec Dieu, je peux vous dire que c'est quelque chose de formidable. Oui, mais ça demande de la peine. Ça demande de la persévérance et des efforts. Alors, si l'Éternel ne bâtit la maison, je crois que nous pouvons le dire et vraiment le comprendre cet après-midi, et vous êtes là pour en faire foi, c'est que vous avez souci de construire votre maison, votre vie, avec le Seigneur. Et vous venez recourir à sa parole pour avoir du matériel, enfin, ou des matériaux plutôt, parce que ça construit la foi, hein, n'est-ce pas? Alors on est réconforté parce qu'on se dit, mais Seigneur, ben c'est ce qui m'arrive. Alors il y a des constructions matérielles, il y a des réalisations qui appartiennent finalement aux choses indifférentes de cette vie. Mais il y a des choses sur lesquelles qui sont d'une grande valeur et parfois on n'y prend pas garde. Construire sa vie, s'associer avec une autre personne, vous entendez bien ce que je suis en train de dire, la vie sentimentale, la vie affective, etc. Construire et bâtir un foyer... avoir des enfants et la vie familiale, ça c'est aussi important. Alors, on peut naturellement appliquer ce que nous dit Salomon à diverses choses de notre existence. Parce que si l'Éternel ne bâtit la maison, s'il est absent, si on ne le consulte pas, si on ne lui demande pas, très souvent, ce n'est pas de lui demander une fois, mais c'est de lui demander, Seigneur, est-ce que ça va? Et vous savez, le Seigneur nous répond, je tiens quand même à le dire, parce que dans une vie qui est quand même longue, dans les grandes entreprises de l'existence, il y a du chemin à parcourir. Et puis, quelquefois, les temps changent. Il peut y avoir des intempéries, il peut y avoir des orages, des torrents. Et on a besoin de se remettre devant Dieu en disant, Seigneur, j'ai perdu ma route, c'est de brouillard, je ne sais plus où j'en suis. Alors, quand on lui demande, eh bien, il est là pour nous dire, eh bien, voilà, tu vas faire comme ceci et cela. Jamais rien n'est assuré à l'avance. Mais on doit marcher comme Abraham, pas à pas. Et c'est comme ça qu'on arrive dans le pays de la promesse. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Alors, ça nous est montré dans le parabole que je vous ai cité tout à l'heure, le fou qui construit sa maison sur le sable et le sage, l'homme prudent, qui construit sa maison sur le roc. On voit bien la différence à la fin. Mais ce n'est qu'à la fin qu'on voit la différence, figurez-vous. C'est vrai que si je construis un petit bungalow sur la plage de Saint-Nazaire, je ne vais peut-être pas avoir trop de mal à creuser, c'est du sable. Oui, ça ira assez vite, Mais si je dois faire sur un rocher, là, parce qu'il y en a pas mal, faire une maison, je vais peut-être un peu mouiller ma chemise, parce qu'il va falloir faire des trous. Ça sera solide, mais c'est à la fin qu'on va voir la différence. Et c'est dans le gros temps que l'on voit la différence. Vous savez, quand il y a des ouragans, des tempêtes, ça tient ou ça tient pas, ça disparaît ou ça reste. Et c'est là où on est content quand même d'être à l'abri. Parce qu'autrement, si vous avez les planches sur la tête, doublement parlant, parce que si vous y passez, vous avez des planches, là, c'est clair. Alors, ceux qui bâtissent travaillent en vain, c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas associé l'essentiel. Ils n'ont pas associé le principal. Vous savez, celui dont Paul parle, celui qui est l'architecte, celui qui fait les plans, celui qui nous conduit dans l'explication et l'application du plan. Parce qu'il ne faut pas se tromper, c'est un pulse. Les pièces ne vont pas n'importe où et n'importe comment. Alors, ça, c'est une sécurité. On est accompagné du Seigneur dans notre vie, dans nos entreprises. Et puis, on a aussi cette belle parole de Jésus que vous connaissez tous. C'est simple, ce que je suis en train de dire cet après-midi, vous allez voir. C'est simple. Et quand Jésus nous dit, mais à ses disciples, maintenant vous allez faire l'œuvre. Vous allez construire mon église, qui est mon corps. Vous allez maintenant partir. Je vous donne mission de conquérir la terre, de faire de toutes les nations des disciples. Et vous savez ce qu'il leur dit avant qu'ils s'en aillent ? Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. N'oubliez pas que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on s'imagine qu'une grande partie de l'Église chrétienne a oublié que le Seigneur était tous les jours avec eux. Alors ils ont construit avec les matériaux qu'ils voulaient. Ils se sont dit, tout ça, la Bible, la parole de Dieu, Jésus, il est ressuscité, mais il est quand même mort. Alors, on a bâti une église qui ne ressemble à rien à celle que Dieu veut. On a construit avec toutes sortes de matériaux, la philosophie, la théologie, un sacerdoce humain, et puis on a fait ce qu'on a voulu. On voit où on en est aujourd'hui. Mais celui qui a voulu rester sur la parole, prenant Jésus pour guide, celui qui nous éclaire, celui qui nous a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde », eh bien ça, c'est solide. La preuve, parce que la véritable Église, elle existe encore. Oh, elle n'est pas tapageuse, elle n'est pas voyante, elle n'est pas criante, mais elle est là, elle est universelle, dans le monde entier. Et elle ne choque personne, en tous les cas. Alors voilà, c'est une question de bâtir avec Dieu. Et puis, il y a une autre proposition qui nous est donnée, mais si l'Éternel ne garde la ville, eh bien, celui qui la garde, il veille en vain. Voilà, il regarde, et puis ça n'empêchera pas les ennemis de venir. Ça nous fait penser un petit peu à Néhémie qui construisait, qui bâtissait, et qui avait dans une main la truelle et de l'autre l'épée. Voilà, vous connaissez l'histoire de Néhémie, hein ? Eh bien, moi, je crois que c'est une belle image, finalement, à la fois du travail, de la construction, et puis de la lutte que nous engageons, finalement, pour l'œuvre de Dieu, pour la construction. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est ce que nous dit, d'ailleurs, le psaume 34. Je vais prendre quelques textes, quand même, pour nous montrer combien le Seigneur est merveilleux, combien il est formidable. Dans le psaume 34, il est dit ceci. Et ça, c'est un encouragement, parce que premièrement, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il nous arrache du danger. Les menaces, elles sont là. Ça, c'est au verset 8. Hein. Il les arrache du danger. Mais sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Ouais. Et nous sommes privés d'aucun bien. Alors, on bâtit, on veille, on travaille, mais parce que le Seigneur est là avec nous. Et puis il y a cette autre proposition qui nous est donnée, mais je ne sais pas si c'est vraiment une proposition, ça va beaucoup plus loin que ça d'ailleurs, parce que nous avons finalement à travers cette parole, il est dit, mais en vain, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard, et vous mangez le pain de douleur, et écoutez, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur semaine. Alors ça, c'est le message que je voudrais que vous compreniez cet après-midi. Parce que nous sommes à bâtir avec le Seigneur, nous veillons, et oui, il faut veiller parce qu'autrement l'ennemi est là, mais il est dit cette parole, et ça c'est une constatation à l'adresse de ceux et de celles qui n'ont pas pris la précaution de bâtir et de veiller avec la grâce de Dieu, et qui font beaucoup d'efforts par eux-mêmes pour n'arriver qu'à rien du tout. Et vous remarquerez les termes qui sont employés par Salomon, mais c'est une vanité. C'est lui, je crois, qui a été l'inspirateur du livre de l'Ecclésiaste. Et vous savez ce qui est dit dans le livre de l'Ecclésiaste ? Vanité des vanités et poursuite du vent. Finalement, tout ça, tout est vanité. Et je crois que c'est bien la grande différence entre l'homme qui est sur le roc et l'homme qui est sur le sable. On revient toujours à l'idée que nous avons développée tout à l'heure. Alors, vous vous levez de bon matin et vous vous couchez tard. Ce qui fait quand même des bonnes journées, avec des préoccupations quotidiennes, avec beaucoup de labeur, beaucoup de sueur, beaucoup de soucis ou de tracas, pour dire, eh bien voilà, je fais les choses par moi-même. Et parce que je fais les choses de cette manière, eh bien à ce moment-là, je vais bien finir par y arriver. Vous savez ce que Dieu répond ? En quelque sorte, insensé. Tu es en train de consumer ta vie, tu es en train de dilapider tes forces, tu es en train de faire les choses par toi-même, mais tu les fais en l'absence de Dieu. Tu les fais comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est l'image de notre monde, hein, où nous pouvons peut-être entendre cette parole où Dieu disait à Israël, mais n'oublie jamais ton Créateur, n'oublie jamais ton Sauveur, n'oublie jamais l'Éternel, ton Dieu, afin que tu n'en arrives à dire, eh bien, c'est par la force de ma main que toutes ces choses me sont données. Vous connaissez ça, ces textes, hein, je les cite de mémoire, hein, mais ce sont des textes de la Bible. Et aujourd'hui, le monde qui renie Dieu, le monde qui vit sans Dieu, le monde qui peut-être peut avoir une apparence extérieure d'être croyant ou chrétien, mais pratiquement, Dieu n'existe pas. Et nous voyons que c'est une interpellation quand il est dit ceci, mais vous vous levez de bon matin. C'est-à-dire qu'aux aurores, vous êtes déjà sur place en disant, moi, ma la journée, eh bien, ça va être une grande journée. Je vais faire beaucoup de choses, etc., etc. Et vous couchez tard. De l'aurore au crépuscule. Et vous ne donnez aucun repos à vos corps. Vous ne donnez aucune réflexion à votre esprit pour vous imaginer simplement que vous n'êtes qu'une créature, une créature mortelle et que c'est Dieu qui lui dispose finalement du cordon d'argent. Vous savez le cordon d'argent ? Dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit, mais c'est Dieu qui le coupe. Hein ? Alors, c'est véritablement une vie de vanité où là, eh bien, finalement, on pense qu'on va pouvoir faire les choses tout seul. Vous mangez le pain de douleur, parce que c'est la conséquence de tout cela. Il y a des hommes qui ont passé leur vie avec un grand rêve ou un grand projet, qui se sont donnés à fond dans la réalisation de leur rêve ou de leur projet, qui en ont négligé peut-être leur santé, leur équilibre, qui en ont négligé peut-être leur famille, leurs enfants, leurs femmes, et qui à la fin de la vie, comme à l'image de ce cultivateur qui s'enrichit, et au moment où il dit, eh bien maintenant, mon âme, repose-toi, donne-toi du plaisir et de la joie, et là il y a une autre parole qui vient télescoper sa réflexion, et qui lui dit aujourd'hui même, ce soir même, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Vous ne croyez pas que ça existe dans notre monde, ça ? Et Salomon nous en parle. Il nous dit, mais quelle vanité, quelle stupidité de penser que, eh bien là, il y a une autre dimension. Et c'est grandement le drame de notre société d'aujourd'hui, où nous avons confondu, nous avons interverti, et je le répète, entre les buts de l'existence et les moyens de l'existence. Une maison, c'est un moyen. L'argent, c'est un moyen. Le travail, c'est un moyen. Mais quand on en fait un but de la vie, on va passer à côté, finalement, de l'essentiel, c'est-à-dire le salut de notre âme, la connaissance de Dieu, cette bonté de tous les jours, puisque vous vous levez tôt le matin. Vous savez ce qui est dit dans le livre de Jérémie, le livre de lamentation de Jérémie, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin sur ceux qui le craignent. Donc il y a la crainte et le respect de Dieu à ce moment-là. Elle est là. Et au fond de nos cœurs à chacun, je présume, nous avons cela au fond de nous-mêmes. Le Seigneur en premier, comme David le dira, « Mais Seigneur éternel, tu es mon souverain bien. » Lui, il était souverain, il était roi du peuple d'Israël, mais il y avait un roi au-dessus de lui. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons penser que très souvent, les hommes pensent être des rois sur la terre, il n'y a rien au-dessus d'eux. Eh bien si, il y a le Seigneur qui est maître de tout, de toute manière. Alors vous mangez le pain de la douleur. Et combien de symphonies inachevées. Vous connaissez la musique, hein, la symphonie inachevée. Combien d'hommes se sont investis dans de grands projets, dans de grandes réalisations. Et puis voilà que l'accident ou la maladie les a frappés, et puis ils vont laisser leur œuvre à d'autres. C'est terrible, hein, cela. Hein. Ouais, ça pouvait être bien, ça pouvait être une symphonie. Mais ils ont été frappés par quelque chose. Et je crois que Dieu nous assure la vie. Parce que nous l'intégrons et nous le mettons à la première place dans notre existence. Alors le pain de la douleur, il y a peut-être des souffrances et des afflictions, mais le pain de la douleur dont parle Salomon, je crois qu'un véritable chrétien ne le connaît pas. Parce que lui, ce n'est pas le pain de la douleur qu'il mange tous les jours, c'est la manne qui descend du ciel. Vous savez cette parole de Dieu ? Cette parole qui nourrissait les Hébreux. Alors, il y a ces conditions de l'homme qui vit sans Dieu. Vous vous couchez tard, vous mangez le pain de la douleur et je crois que nous avons là quelque chose de formidable dans la dernière expression. Il est dit, que de fatigue, que de soucis, que de tracas, que d'inquiétude pour avoir, pour posséder, pour détenir, pour acquérir. Et Dieu nous dit, mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça, c'est merveilleux. Je peux vous dire que les uns et les autres, je suis sûr qu'on a certainement quelque chose à dire dans notre témoignage pour dire, mais combien Dieu est bon. Ouais. Nous lui avons donné la première place. Nous avons voulu l'honorer, nous voulons l'honorer jusqu'à notre dernier souffle. Mais vous savez que ça se passe pendant que les autres travaillent, dans notre sommeil. Vous savez, ce n'est pas un sommeil, c'est tout simplement un repos et ce que j'appellerais le repos de la foi. Vous connaissez le repos de la foi ? Où je ne m'inquiète pas, je ne me tourmente pas. Il peut y avoir toutes sortes de tourbillons autour de moi, il peut y avoir l'ennemi, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais je suis dans la paix du cœur, la paix dans mon esprit, dans mes pensées. Oui, il en donne autant à, tout simplement, ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien, à la plage toute la journée, a regardé le ciel en disant « Seigneur, je ne travaille pas, mais tu me donnes du travail, ou si tu as peut-être un autre moyen pour que je puisse avoir le fruit du travail. » Non, non, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Non, quand il est question, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je tiens à le dire, c'est la confiance que nous mettons en Dieu, c'est ce repos de la foi où je m'abandonne entre ses mains et je fais confiance à sa providence. Parce que finalement, ma vie, je peux peut-être avoir des petites idées sur ma vie, mais lui, il en a de grandes idées sur la mienne. Et il a des projets inouïs, le Seigneur. Il a des idées géniales pour moi, pour vous. Ne sous-estimons pas la grâce, finalement, qui est en chacun. Est-ce que vous croyez que Dieu a de grands projets pour chacun d'entre nous ? Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas étonné de ce que vous me répondez. Hein. Mais c'est nous qui mettons finalement les choses. Seigneur, tu me demandes de bâtir, mais qu'est-ce que je pourrais te bâtir ? Que tu vas me révéler. Parce que si tu bâtis avec moi, eh bien ça sera construit et ça ira jusqu'à son terme. Seigneur, tu me demandes de veiller, mais j'ai besoin aussi de ton accompagnement et que tu me donnes des yeux pour voir ce que je dois voir. Parce qu'un veilleur, il veille dans la nuit. Et notre vie, souvent, elle est dans l'obscurité de ce monde, de notre humanité. Eh bien, il nous donne des yeux, comme Paul disait pour les Éphésiens. « Je prie pour vous afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur et vous connaissiez la hauteur, la grandeur, la profondeur et la largeur de l'amour de Dieu. Seigneur, ouvre-moi les yeux. » Et vous savez que ça donne un coup de souffle à notre foi, ça. Hein, eh oui, parce qu'on se dit, mais Seigneur, surtout que notre Dieu, ce n'est pas notre Dieu. C'est notre Père Céleste et nous sommes ses fils et ses filles. Alors là, ça change, parce que c'est encore une dimension d'intimité. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qu'est-ce que nous dit un autre psaume ? Ça, c'est... On va les découvrir ensemble. Voilà. Le psaume 4, me semble-t-il, nous dit ceci. Et ça, c'est très joli. C'est très beau. Il est dit ceci. Cette expression que vous connaissez, mais plusieurs disent. Mais qui nous fera voir le bonheur ? Seigneur, le bonheur de construire avec toi, le bonheur de pouvoir veiller avec toi. Alors fais lever sur nous ta lumière, c'est une prière. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Vous savez les autres, ceux qui se lèvent à l'aurore et qui se couchent au crépuscule, qui travaillent, qui ne travaillent que pour eux-mêmes, qui ne travaillent que pour cette vie, qui n'ont aucune ambition et aucune perspective pour l'autre dimension. Alors, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur mou. Pourtant, tu les bénis. Et il y a de l'abondance chez eux, mais ils ne sont pas forcément heureux. Alors, je me couche et je m'endors en paix, car toi, seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous ne trouvez pas que c'est beau ? Vous ne me dites rien. Parce qu'il n'y a que moi qui parle. Voilà. Voilà, mais c'est vrai. Moi, je trouve que ce sont des paroles extraordinaires et je voudrais qu'elles vous fassent du bien. Je voudrais qu'elles nous fassent du bien cet après-midi. Pourquoi s'agiter ? Allez, Marthe, Marthe, pourquoi tu t'inquiètes, tu t'agites pour si peu de choses ? Ça vous dit quelque chose, ça ? Vous savez, Jésus, dans la maison de Marthe et Marie, Marthe qui est en train de paniquer parce qu'il y a 12 invités, 13 invités à table ce soir, et Marie, qui est 6, tranquille, au pied de Jésus, et qui écoute la parole de Dieu. Et Jésus lui dira, mais laisse, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour des choses secondaires. Si on ne mange pas à cette heure, on mangera plus tard. Et s'il n'y a rien à manger, mais ce n'est pas grave, on ne va pas en mourir. Il n'y a pas mort d'homme. Et il dira à Marie, Il dira, mais tu as choisi la bonne part. Et vous savez, cette bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. Mes frères et sœurs, je voudrais vous laisser un message pour cet après-midi de la part du Seigneur. Ne vous tracassez pas pour votre vie. Ne stressez pas. Ne vous tracassez pas. Ne vous rendez pas malade. Le Seigneur a déjà pourvu pour vous. Il suffit tout simplement que vous vous abandonniez bien entre ses mains. Ouais, c'est cela. Pourquoi se stresser? Pourquoi s'agiter? Vous allez me dire, mais oui, mais le monde, il pousse. Hein. C'est terrible, hein, le monde du travail, en entreprise, etc., etc. Eh bien, on peut le vivre quand même. Si on demande au Seigneur qu'il modifie notre vision, on n'a pas besoin de courir avec les autres et de se rendre malade. Oui. Souvent, on est pris dans un conformisme. Vous savez, comme un petit peu les moutons de Panurge. Il y en a un qui va dans cette direction, tout le monde suit. Mais vous savez comment ils ont fini, les moutons de Panurge? Ils sont tous tombés dans la rivière. Hein. Alors, c'est pas ça. Hein. Alors, nous avons cette parole, je me couche et je m'endors en paix. Oui, ce que nous avons besoin en faux de nos cœurs et de nos âmes, c'est la paix de Dieu. Je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde la donne, mais je vous la laisse. Voilà. Et cette paix, s'il nous la laisse, c'est à nous de la prendre. On se tracasse tellement. On se fait tellement de soucis. Mais comment on va y arriver, ceci et cela? Mais écoutez, quand on règle sa vie avec le Seigneur, c'est lui qui va pourvoir. Et on vit des choses formidables. Et il y a des exaucements de prières magnifiques. Des choses que nous avons demandées à Dieu et qui nous arrivent comme ça, comme sur un plateau. Moi, j'ai des souvenirs dans notre vie, dans le ministère et puis aussi dans notre famille, où on a appris cette leçon de ne pas nous inquiéter. Oui. De ne pas stresser, de ne pas se rendre malade. Parce que vous savez, les soucis, hein, ça peut rendre malade vraiment les gens. Hein. D'ailleurs, les gens sont malades. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? On devrait se tourner vers le Seigneur en disant, toi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis parfois, il y a des exaucements de prières, voire même des prières qu'on n'attendait plus. Et ça nous vient comme ça, on ne s'y attendait pas. Et on dit, mais Seigneur, tu nous sers comme des princes et des rois. Et, pas seulement ce que nous avions pensé, mais au-delà de ce que nous avions pensé, des miracles de Dieu. Alors je peux vous dire que ça vous donne un coup de souffle à votre foi. C'est formidable. Écoutez, oui Seigneur, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, tu me conduis, et non seulement tu me conduis, mais tu me bénis. Alors je reviendrai sur ce que nous avons dit tout à l'heure, que n'ayez pas peur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Craignez le Seigneur, c'est votre part. Et il vous donnera tout l'environnement sécurisé dont vous avez besoin, sans vous tourmenter. Et puis, le psalmiste, ça c'est David qui le dit cette fois-ci, dans le psaume 34 que nous avons lu tout à l'heure, il dirait, mais sentez et voyez combien l'Éternel, combien le Seigneur est bon. Est-ce que vous voulez sentir? Est-ce que vous voulez apprécier? Et est-ce que vous voulez voir combien le Seigneur est bon? Est-ce que vous croyez qu'il va vous abandonner? Vous êtes ses enfants. Vous croyez qu'il va vous laisser tomber? Vous avez des craintes, incertitudes du lendemain. Le climat est mauvais en ce moment. Hein. Il est mauvais. Hein. On ne sait pas ce que l'on va devenir. Le travail, les entreprises qui ferment, ceci et cela. Je voudrais vous dire, parce que le Seigneur a mis sur mon cœur, mais ne craignez rien. Parce que s'il n'y en a pas pour les autres, il y en aura pour vous. Et vous savez pourquoi il y en aura pour vous? Parce que les autres ne sont pas des enfants de Dieu et vous, vous êtes fils et filles de Dieu. Et un père donnera toujours la priorité du pain nécessaire à ses enfants. Ne vous tracassez pas. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Je vous dis des choses que vous savez déjà. Parce que vous pourriez me dire, oui, mais dans telle circonstance, le Seigneur a été merveilleux et magnifique. Il a fait ceci et cela et pour moi. Est-ce que vous ne pourriez pas le croire encore aujourd'hui? Vous allez me dire, mais c'était hier. Eh bien, le Seigneur n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il va en faire de plus grandes choses encore pour demain dans les cas de nécessité qui sont les vôtres. Oui, c'est ça. Hein. Alors, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Merci Seigneur pour cela. Et j'aimerais simplement ouvrir encore une page, toute simple. Dans le livre des juges, nous allons voir ça ensemble. Livre des juges au chapitre 5. Là, c'est encore un prolongement de ce que nous avons lu, ce que nous avons commencé à voir. Écoutez, Juges, chapitre 5, verset 15. Il est dit ceci. Les princes d'Issacar furent avec Déborah. Et Issacar suivit Barak. Il fut envoyé sur les pas dans la vallée, près des ruisseaux de Rubin. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux, ô ruisseau de Rubin ? Grandes furent les délibérations du cœur. Pour nous dire que tout ce que vous venez d'entendre il y a un instant, sur le psaume 127, où nous avons vu combien le Seigneur est présent, combien le Seigneur est avec ceux qui lui font confiance, combien il porte sa main sur la nôtre pour nous aider à bâtir, combien il ouvre nos yeux pour que nous puissions marcher dans la nuit et que nous puissions veiller. Combien nous pouvons voir le monde qui s'agite autour de nous avec anxiété, dans le stress et dans l'angoisse, pour arriver finalement à l'épuisement, sans contentement et sans satisfaction. Parce que imaginez-vous que depuis la Samaritaine qui est venue, qui a fait son apparition il y a 2000 ans, elle a compris qu'il fallait donner sa vie à Jésus, et elle l'a fait. Mais le monde qui est encore autour du puits, en train de puiser, en train de remonter l'eau vainement et inlassablement, et les siècles se sont écoulés les uns après les autres, eh bien permettez-moi que si le monde était heureux, ça se saurait. Or, nous voyons aujourd'hui que le monde est toujours dans l'insatisfaction, toujours dans le vide, il a toujours soif, il a toujours faim. On en est toujours à la même... Et pourquoi ? C'est facile. Parce qu'ils n'ont pas pris, comme David le dit, l'Éternel comme leur souverain bien. Et on s'aperçoit que on peut savoir toutes ces choses. Je vous l'ai dit, le Seigneur prend soin de nous. Ouais, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Mais le savoir est une chose, parce que là, vous êtes au stade du savoir. Et vous le savez déjà avant que je vous le dise. Vous le saviez déjà depuis longtemps. Mais maintenant, il faut le mettre en pratique. Et là, précisément, c'est le problème de la mise en pratique que nous avons dans le livre des Juges. Écoutez bien. Il est question d'une tribu d'Israël. Les princes d'Issacar ont été avec Déborah. Déborah est une femme qui, alors que tout le monde se décourage, tout le monde baisse les bras, puisque les chemins sont déserts, et que plus personne croit en Dieu en Israël, Déborah se lève, elle est là, animée d'un esprit de réveil. Et c'est une femme. Et elle va être obligée de réveiller les hommes. Ouais. Pour dire, eh bien, écoutez, vous êtes des hommes, il faut aller au combat. L'ennemi autoporte, mais vous n'allez pas vous laisser battre comme ça. Il faut vous lever, il faut vous battre. Il faut mener le combat pour Dieu. Alors elle va entraîner avec elle Barak. Bon, je ne veux pas rentrer dans le... Hein, vous connaissez hein, naturellement tout ça. Et voilà que Issacar a suivi Barak, qui lui s'est réveillé. Il a pris conscience que finalement l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'il allait à la victoire. Parce que pour l'instant, eh bien, il était complètement endormi. Alors il nous est dit que cet Issacar fut envoyé sur les pas dans la vallée et près des ruisseaux de Rubin. Vous savez, les ruisseaux de Rubin, il y a de la fraîcheur. On est tranquille. C'est très bucolique parce que c'est tout un univers champêtre et on est bien là. On y reste très bien, mais ce n'est pas notre place. Ouais. Il y a des gens qui se trouvent bien dans le monde. Et peut-être qu'il y a des chrétiens qui se disent, finalement, l'Église, c'est pas mal, mais le monde, c'est pas mal non plus. On se met là auprès des troupeaux, parce que bon, c'est assez sympathique. Et c'est là où il y a le grand dilemme dans le cœur, c'est le partage. Entre ce que Dieu nous promet en disant, tu es tout à moi, et on lui répond, Seigneur, oui, une part pour toi, mais une part pour moi. Une part pour toi, Seigneur, mais une part pour le monde. Et c'est là où il est dit par deux fois, grandes furent les résolutions du cœur. Quand on entend des choses comme ça, que le Seigneur bénit, que le Seigneur nous aide à construire, qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous donne, même pendant notre sommeil, eh bien, sa bénédiction et sa grâce, parce que nous lui faisons confiance et que nous nous abandonnons, eh bien, dans ses bras, nous abandonnons notre vie. Alors quand on l'entend, on dit, mais oui, c'est ça, c'est formidable. Mais les raisons du cœur, les résolutions du cœur, qui ne sont suivies de rien du tout, ça sert à quoi ? Il y a bien des gens qui sont venus entendre l'Évangile, qui ont été frappés par le message d'appel et le message de la grâce de Dieu, qui sont sortis de cette salle en disant « Eh bien Seigneur, j'ai compris maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir chrétien. » Et puis, ils n'ont pas fait trois pas dans la rue, c'est terminé, hein, il n'y a plus rien du tout. Hein. Les grandes sont les résolutions du cœur. Mais même les résolutions du cœur, si véritablement nous ne nous attachons pas à celui qui va les concrétiser, ben ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et Dieu dira justement, devant cette versatilité, devant cette cette indécision du cœur, et Dieu dira justement à ce moment-là, mais pourquoi es-tu resté au milieu des étables, à écouter le bêlement des troupeaux ? Mes amis qui écoutent le message de l'Évangile et qui disent, c'est bien, amen, c'est formidable, merci Seigneur, mais qui sont là dans les étables. L'étable, c'est l'image à côté d'une maison, à côté d'un palais, c'est l'image de la médiocrité. Vous habitez dans une maison ou dans une étable ? Personne ne me répond. Je pense que vous habitez dans une maison. Hein ? Et vous faites et vous prenez tous les soins nécessaires pour que votre maison soit agréable. Un minimum de confort, de bien-être, c'est un souci qui est tout à fait légitime. On n'habite pas dans des palais. Mais pourquoi les hommes restent-ils dans les étables ? Pourquoi même des enfants de Dieu restent-ils dans des étables ? Alors qu'ils ont des palais à habiter. Ils ont la bénédiction de Dieu. Ils ont toute la perspective que Dieu déploie devant eux pour dire « Mais je veux te bénir. Je veux que tu sois épanoui. Je veux que tu puisses vivre pleinement ton existence. » Il n'y en a qu'une. Hein. On ne recommence pas. Hein. On n'est pas des hindouistes. Pas de souris, pas de chat et tout le reste. Hein. C'est maintenant que ça se règle. Dieu veut que nous soyons des chrétiens et des enfants de Dieu heureux. Et nous n'avons aucune raison pour être malheureux quand nous avons le Seigneur dans notre vie. Est-ce que Dieu manque à quelque chose ? Est-ce que Dieu serait insuffisant ? Est-ce qu'il manquerait de capacité et de pouvoir pour nous bénir ? Écoutez, toutes les promesses dans la Bible, il y en a des milliers et des milliers, elles sont pour nous si nous savons les saisir. La joie, la paix, l'enthousiasme, en sachant que le mot enthousiasme, ça veut dire Dieu en soi, hein, en grec. Ne vous affligez pas, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Voyez et sentez combien l'Éternel est bon. Ouais. Mais si vous passez vos matinées à vous lever à l'aurore en disant au Seigneur, ah, je regarde par la fenêtre, il y a du brouillard. Puis il va pleurer. Je regarde la météo sur France Info. On m'annonce une catastrophe. Si je me tourne vers mon travail et que je dis, bah tiens, je vais encore voir mon chef, je peux pas aller. Bon, voilà. Mais si on accumule tous les jours toutes les choses négatives, mais vous n'allez pas être heureux, mes frères et sœurs, mes amis. Par contre, si vous dites, moi, il y a des choses sur lesquelles ce sont des réalités. Hein, un chrétien n'est pas quelqu'un qui se voile la face. Mais Seigneur, dans cette situation, même s'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, et même si ma voiture tombe en panne, et ceci et cela, parce que des soucis, on en a tous les jours, et les uns et les autres. Mais Seigneur, moi, je regarde à toi et je veux voir les choses à travers la manière dont tu les vois. Mais ça va changer la nature même de notre vie. Vous n'êtes pas d'accord ? Mais bien sûr, c'est ça. Seigneur, crée en moi, c'est vrai, un esprit pur et un esprit bien disposé, un cœur pur et un esprit bien disposé, mais envoie-moi cet esprit qui est un esprit de vie à l'intérieur de moi-même. Si je ne vois que la mort, je ne verrai que la mort. Mais si je veux voir la vie, je veux voir la vie. Alors, grandes sont les délibérations des cœurs. Et vous savez, moi j'ai vu des hommes et des femmes, j'ai vu même des chrétiens qui délibèrent pendant des dizaines d'années comme ça. Et je me dis, mais c'est dommage qu'ils perdent leur temps. C'est dommage qu'ils passent à côté, certainement d'une bénédiction pour eux et pour les autres. Seigneur, change la nature en moi. Il y en a un qui se plaît à appuyer, mais alors grossièrement sur notre vie pour l'écraser, pour nous dire, regarde, t'es avec Dieu, mais regarde ta vie. Allez, un petit rond comme ça, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune périphérie, il n'y a aucun rayonnement, il n'y a rien du tout. Mais ne l'écoutez pas, il vous ment, tout simplement. Oui ou non, le Seigneur est le Seigneur. Oui ou non, Dieu est Dieu. Et il est capable de faire de grandes choses dans notre vie. Alors les délibérations du cœur, Seigneur, tu m'en guéris. Vous savez, il faut s'empoigner quelquefois. Hein. Ça dépend de la nature de chacun. Hein. Mais moi, je peux en parler savamment, parce que ça ne se voit pas aujourd'hui. Mais j'ai passé quand même une partie de ma jeunesse avec vraiment un état très, très négatif, dépressif. Non, c'est passé, hein. Non, mais c'est vrai. Et moi, je peux dire que si Dieu me donne de prêcher l'Évangile et de pouvoir dire certaines choses à l'auditoire d'une manière ou d'une autre, c'est que véritablement Dieu m'a fait grâce. C'est pas moi, C'est pas les médecins, c'est pas les médicaments, mais c'est le Seigneur qui m'a fait grâce pour dire qu'il y a une vie avec Dieu. Et une vie qui n'est pas une vie au rabais, une vie restrictive, mais une vie pleine et entière. Dans tous les domaines de mon existence, que ce soit le couple, que ce soit la famille, que ce soit l'église, que ce soit même les choses indifférentes de la vie, dans la mesure où on rend grâce et on dit « Seigneur, mais merci pour cela ». Moi, je me réjouis des choses qu'il me donne. Et quand on le remercie, plus on le remercie, plus il nous en donne. Mais c'est vrai, j'entends M. Olivier qui fait « Notre frère peut parler parce qu'il a quand même quelques années d'expérience. Merci Claude pour votre soutien. » Pourquoi es-tu resté au milieu des étables, mon frère, ma sœur, mes amis? Pourquoi restez-vous au milieu des étables? Ce n'est pas fait pour toi. Le Seigneur voudrait te faire rentrer dans son palais. Il y en a un qui nous attend de l'autre côté. Pourquoi et qu'est-ce que tu fais au milieu des étables? Tu écoutes le bêlement des troupeaux? Vous savez, une brebis, ça a une belle voix, mais quand même, c'est quand même pas la calasse, hein. Eh oui, quand même, qu'est-ce que c'est que ces bêlements? Un bêlement, c'est quelque chose à l'oreille humaine qui ne se comprend pas. Moi, je ne sais pas, et vous non plus. Et vous savez, il y en a un qui nous amène à écouter que les bêlements des troupeaux. Ce n'est pas de notre nature et ce n'est pas de notre nation. Les animaux sont les animaux, les hommes sont les hommes. Il y a une voix qui parle mieux pour chacun d'entre nous, c'est ce que nous dit Dieu. Pas les bêlements, pas les gémissements, pas toutes ces choses qui finalement sont que des manifestations de mécontentement, de négativité, de plainte, de jérémiade. Ça tombe bien, Jérémie, hein, naturellement, et tout le reste. Mais avec ça, on ne va pas vivre. Avec ça, on ne va pas s'épanouir. Mais il y a dans la parole, comme les textes que nous avons lus, quelque chose qui est beaucoup plus dynamisant, hein, beaucoup plus fort. Alors, pourquoi es-tu resté? À écouter les bêlements des troupeaux au ruisseau de Rubin. Allez, il y a des fleuves. Un ruisseau, c'est un ruisseau, mais un fleuve coulant du cœur de Dieu. Vous savez, vous connaissez le petit cantique, hein? Ouais, c'est la vie de l'esprit. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est une autre dimension. Grandes furent les délibérations du cœur. Alors je dirais, réveille-toi Déborah, réveille-toi Barak, parce qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce que tu n'as pu imaginer, mais tu le trouveras en venant vers ton Dieu, vers ton Sauveur, et en le saisissant tout simplement par la foi. Alors que Dieu nous bénisse cet après-midi, parce que sentez et voyez combien notre Dieu est bon et il est grand. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier parce que ta parole parle, ou tu nous parles plutôt par ta parole. Et Seigneur, c'est souvent un message très intime, un message personnel. Tu t'adresses à des millions et des millions d'hommes sur cette terre. Mais nous croyons qu'il y a là, en effet, des Déborah, il y a là des Barak, il y a là également des Issachar qui sont là restés, Seigneur, sans savoir pourquoi, mais à se languir, ou à attendre, en effet, Seigneur, des choses qui ne peuvent leur apporter la joie, la paix, la satisfaction, et qui sont là dans des étables, qui n'est vraiment pas la place d'un croyant. Mais, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à ne pas forcément et toujours écouter ces bêlements, mais plutôt écouter ta parole qui nous dit, eh bien, lève-toi, va de l'avant et marche. Je suis avec toi et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as appelés à bâtir, tu nous as appelés à veiller, tu nous as appelés, Seigneur, tout simplement, eh bien, à nous confier en toi, puisque même, tu nous le dis, même dans notre sommeil, eh bien, tu donnes cette part de bien qui te plaît, Seigneur, de nous donner. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te prie pour ceux et celles qui entendent ta parole, ou qui plus tard l'entendront, peu importe, mais qui vont se sentir concernés et qui vont secouer de leur cœur, de leur vie, de leur pensée, de leur âme, eh bien cette pesanteur, cette lourdeur, cette somnolence qui nous amène, eh bien tout simplement à rester là où nous sommes en disant, eh bien c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ce que tu nous dis, Seigneur, que ce qui est comme ça, c'est ta volonté, c'est ton désir, et tu as de grands désirs pour tes enfants parce que nous croyons que tu es un Dieu, tu es un Père avant tout, et un Père, il veut le meilleur pour ses enfants. Et si nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes enfants, eh bien nous te réclamons cet après-midi le meilleur. Et nous t'en bénissons et nous te remercions dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Oui, Seigneur, je veux sentir et je veux voir combien l'Éternel, mon Dieu, mon Sauveur et mon Seigneur est bon, parce que tu es bon, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Thank you.